C'est le débrief de la rédac de la semaine du 6 février 2023. Comme chaque vendredi, c'est le moment gourmandise. Ce moment où on prend un peu de recul sur les différents épisodes de la semaine. On se regarde un petit peu. Tiens, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce qui nous a intéressé? C'est comme ça qu'on fait le vendredi. Et puis, on le fait en collectif avec les participants qui sont en direct sur LinkedIn et sur twitch.tv/bonjourppc. On a aussi autour de nous au micro... une membre de la Redac Room. Et puis aujourd'hui, on a la grande chance d'accueillir justement un membre de la Redac Room, c'est notre amie Alice. Bonjour Alice.
Coucou PPC, bonjour à tous.
Je suis ravi de t'entendre ce matin avec une voix incroyable. Merci à toi.
On ne se moque pas.
Non, tout va bien. Non, t'as une très jolie voix. Tout va bien. Alice est présente. Tu es acclamée. Tu es acclamée sur LinkedIn et sur Twitch. Il y a une vraie standing ovation. C'est juste un peu de bonheur. On fait un petit récap sur les épisodes de la semaine. Il y en avait 4, comme toujours, et le 5e, c'est ce vendredi, quand on fait ce débrief. On a démarré la semaine lundi avec Sébastien Bonneval. Il est designer d'expérience. Il partage sa vie entre la France et Los Angeles. Le thème, c'était l'expérience collaborateur et le design, l'équation gagnante. Point d'interrogation. On reviendra là-dessus, bien évidemment. Mardi, on a fait un tour. On est parti, effectivement, à l'ouest des États-Unis, dans la Silicon Valley. On est allé rencontrer Guillaume Dumortier. Il est fondateur et président de The Growth Concierge. C'est une agence de marketing digital. Et la question qu'on lui a posée, c'est quelles sont les nouvelles innovations que l'on peut attendre de la Silicon Valley. On reviendra là-dessus. Vous allez voir, c'est assez passionnant et c'est bien, bien, bien dans l'actualité. Mercredi, on accueillait une co-autrice. Une co-autrice d'un ouvrage qui s'appelle Metaverse, enjeu des marques, communication débridée, liberté contrôlée. C'est paru aux éditions Kawa. L'invité, c'était Nathalie Saint. Elle nous a parlé de Metaverse, quels enjeux pour les marques et les communicants. Et puis hier jeudi, nouvel épisode pour le Web3 Café sur un thème passionnant, l'identité décentralisée et la blockchain. Qu'est-ce que ça change dans le modèle? L'invité, Jacques-André Finchlumberger, le directeur des opérations de Blockchain for Good. C'est une association qui a pour objectif principal de contribuer à la recherche en matière d'innovation numérique qui concourt à la réussite des objectifs de développement durable de l'ONU. Rien que ça, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Alors, Alice, si tu en es d'accord, je te propose peut-être, et on a posé une question aussi, et peut-être que toi tu nous écoutes, quel est l'épisode préféré? Quel est ton épisode préféré? C'est la question qu'on a posée aux participants qui sont en direct sur LinkedIn et Twitch. On verra tout à l'heure quelques éléments de réponse. Je te propose qu'on démarre peut-être avec l'épisode de lundi, expérience collaborateur et design, l'équation gagnante, point d'interrogation, avec Sébastien Bonneval. Alice, qu'as-tu retenu de cet épisode?
Alors, tout d'abord, les 4 enjeux principaux du design sur l'expérience collaborateur, d'après lui, à savoir 1, améliorer la productivité, car oui, c'est terre à terre, mais c'est le but premier. Puis 2, la symétrie des attentions, et donc optimiser le design pour offrir un équilibre, une même qualité de service entre le client final et les collaborateurs. 3, la simplification des processus. Et 4, la RSE et plus globalement, comment améliorer les conditions de travail. Et certes, la RSE est tendance, on en parle, on s'y attache de plus en plus. Mais passer de la théorie à la pratique, être engageant factuellement, c'est compliqué. D'ailleurs, je n'ai pas compté le nombre d'occurrences des mots complexes et compliqués dans cet épisode, mais on a bien compris grâce à lui le challenge que cela peut être de plaire à tous les profils de salariés et tous les membres de la direction.
Oui, c'est vrai. Sébastien a souvent dit c'est compliqué, c'est complexe, etc. Et c'est passionnant parce qu'on se rend compte que son métier, en fait, c'est d'amener de la simplicité. Mais c'est pas si simple que ça, d'amener de la simplicité. Ça demande beaucoup de travail. Il nous a aussi expliqué partir de la demande de la direction pour avoir déjà une hypothèse, un premier jet, et puis après écouter les collaborateurs pour faire évoluer en fait hein, cette hypothèse en fonction des retours. Et puis bah, il dit bah, tous ces acteurs, ils ont des usages, des besoins, des attentes différentes, et c'est là où c'est extrêmement complexe de satisfaire tout le monde en effet.
C'est clair, d'autant que même les protagonistes ne savent pas toujours par quel bout prendre le projet à la base. Et surtout quand les collaborateurs souhaitent avoir accès à plein d'infos, plein de fonctions, et qu'il faut leur concevoir un cockpit, mais pas une machine à gaz. Donc le challenge, comme tu le dis, hein, c'est justement de rendre le final intelligible et de, comme il nous l'a dit, de rester focus sur le job to be done. Et donc bah, justement faire appel à un designer d'expérience dont c'est le job, qui a un protocole précis et qui va amener toute son expérience et en même temps un regard extérieur.
Le fameux job to be done, ouais, le fameux, voilà, délivré. Anne a relevé aussi, et on l'a noté, une pépite durant cet épisode. C'était un hashtag, en fait. C'était focus sur les usages plutôt que sur les personas. C'est-à-dire qu'on a un peu critiqué les personas. Hein.
Oui, quand Sébastien a indiqué qu'il n'était pas forcément fan des personas, il y a eu un échange assez passionné. On est un peu nombreux à trouver que les personas, bah, c'est des archétypes, donc c'est forcément limitant. Donc, pour pas que ça arrive, ce qu'il nous a dit, hein, c'est quand on design une expérience collaborateur, bah, voilà, c'est partir des usages que l'on connaît. C'est d'ailleurs la principale différence avec le design client, où on les imagine. Là, avec les collaborateurs, on le connaît. Donc, puis après, il faut laisser le designer révolutionner tout ça. Bon, en douceur, hein, si possible, pour ne pas choquer ou du moins bloquer ceux qui peuvent appréhender le changement et les accompagner.
Ouais, toujours faire en douceur. Hein, c'est notre ami Christian qui dit, ils ont pris plutôt cher les personas pendant cet épisode. Et Charles a repéré aussi une pépite, et notamment la pépite, c'était l'anecdote sur les écrans des vendeurs de la Fnac qui ressemblait à un Minitel et qui finalement est devenu un site de e-commerce. Et ça facilite grandement la vie des collaborateurs dans les magasins. Ouais, c'est pas mal. Merci, bien vu Charles, d'avoir noté effectivement cette très belle anecdote et ce beau cas d'usage. Je vous propose, ouais, c'est 3615 Fnac, dit Christian qui est en grande forme ce matin. Je vous propose qu'on passe peut-être à l'épisode de mardi. Mardi, l'invité c'était Guillaume Dumortier, fondateur, président de The Growth Concierge. Il est basé dans la Silicon Valley. Le thème c'était quelles nouvelles innovations attendre de la Silicon Valley. Alice, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ?
Ben, je t'avoue qu'après deux épisodes récents sur les innovations repérées aux US, quand il y avait eu les deux débriefs du CES, je me demandais si un épisode spécial Silicon Valley, ça allait apporter des nouveautés. Alors, outre le regard de notre invité, mais je n'ai pas été déçu.
Ouais, c'est vrai qu'on s'est posé la question hein, en conf de rédac en disant, bon, est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop sur toutes ces innovations sur les US ? Et puis, ben, oui, tu le dis, hein, tu n'as pas été déçu. Ben, moi, je n'ai pas été déçu non plus. Bon, globalement, tu as retenu quoi ? Ce que nous a dit Guillaume Dumortier.
Ben, je dirais déjà sa liste des principales tendances qu'il remarque depuis la Silicon Valley. Donc, sans rentrer dans le détail, il y avait les tendances côté antitrust, consumer et entreprise. Vous avez aussi parlé innovation, du cycle de Gartner, de comment évolue le Web3, de l'arrivée prochaine des glaces de réalité mixte d'Apple, des mythes de la Silicon Valley. Non, c'était riche, c'était intéressant. Et puis d'IA, hein. Au final, vous avez beaucoup parlé d'IA en même temps. C'était le matin même de l'annonce de Bard & Co, donc un peu difficile de parler d'autre chose.
Ouais, c'est vrai que grosse semaine avec pas mal d'annonces. Hein. ChatGPT fait des émules, fait des petits, fait des personnes qui disent non, on ne va pas leur laisser le gâteau entièrement. on le voit, l'IA est au cœur de toute l'actu tech et puis ça passe même dans l'actu grand public. C'est-à-dire que je pense qu'il fallait vraiment être sur la planète Mars pour ne pas entendre parler de ChatGPT, on le trouve sur tout, dans tout, grand public, etc. Donc ça veut dire qu'on est en train de mettre peut-être de l'intelligence artificielle avec une expérience utilisateur ultra simple dans les mains de tout le monde. Et alors cette semaine, entre Bing, les annonces de Bing, Microsoft, hein, qui effectivement, Microsoft rajoute du ChatGPT dans Bing, et là tout d'un coup, ça va accélérer la qualité de ce moteur de recherche, ce qui doit faire trembler un tout petit peu les amis de chez Google. Bah, ils en profitent pour lancer Bard. Ouais, Bard, c'est leur système d'intelligence artificielle qui est pour l'instant un peu limité à une version un peu privée. Mais ça, c'est parce qu'ils veulent tester, éprouver et peut-être pas se prendre un backlash si jamais les gens disent « ouais, c'est un peu moins bien », etc. Alors que ça sera sûrement mieux. Et puis les autres. Mais on n'a pas parlé que d'IA. Et tu m'as dit qu'il y a un autre sujet qui t'a interpellé dans cet épisode de mardi.
Ouais, la question de l'inclusion, de l'accessibilité, qui est très prise au sérieux et sur laquelle les US ont visiblement une bonne longueur d'avance. Guillaume Dumortier nous a donné des exemples concrets, aussi bien sur les prises en main des PC, des mobiles qui ont des parcours adaptés aux différents handicaps, ou IRL, où les enseignes font très attention à ce que les règles soient bien respectées. Bon, après, ton invité nous a dit que le côté assez procédurier des Américains invite fortement les enseignes à être bien aux normes, voire à prendre les devants. Mais même si ce n'est pas pour les bonnes raisons, ils agissent. Donc les Français, ils continuent à être à leur effondeur. Ça montre que ça marche.
Ouais, c'est bien. Les Français ne changeront pas. Des choses à retenir aussi hein, pendant cet épisode. Une très, très bonne question de l'invité hein, qui a posé la question aux participants. Donc, quels sont, selon vous, les mythes de la Silicon Valley? Et ça, c'était très intéressant parce que ça permet aussi de bien comprendre les tendances. Donc, bien vu, effectivement, Charles, d'avoir aussi retenu ça. Bon, allez, on peut le dire. On a repris rendez-vous avec Guillaume Dumortier. Ouais, on a repris rendez-vous, mais ça sera pas pour un épisode de Digital pour tous, ça sera pour un épisode de MGMT, Management Nouvelle Génération, et le thème qu'on a choisi, ça sera lundi 27 mars, qu'on fera l'enregistrement en direct, c'est manager à la façon de la Silicon Valley. Ça marche comment? Je pense qu'on va aller regarder un tout petit peu comment ils font les choses, pour le meilleur et pour le pire, peut-être, on verra. Voilà. Tiens, c'est notre ami Belfegor qui est sur Twitch, qui nous dit plein d'annonces d'intelligence artificielle cette semaine. Il manque peut-être une intelligence artificielle. Bonjour PPC, merci beaucoup. Mais on a déjà l'intelligence collective, donc pas besoin de l'artificielle. Ah, c'est vrai ça. Est-ce que l'intelligence collective serait pas plus forte que l'intelligence artificielle? Vous avez 2 heures, c'est passionnant. Je vous propose, et je te propose Alice qu'on passe à l'épisode de mercredi. Mercredi, un thème très intéressant. Enfin, moi, j'adore le métaverse. Donc, métaverse, quels enjeux pour les marques et pour les communicants? C'était un thème hein, important. L'invité Nathalie Sinceau, co-autrice avec Florence Revel de Lambert de Métaverse, enjeux des marques, communication débridée, liberté contrôlée. C'est paru chez Kawa. Y a des choses qui t'ont particulièrement interpellée, Alice?
Oui, je dirais 2 points particulièrement. Le premier, c'est que ton invité avait une vision très 3D et même très 3D immersive avec équipement pour le métaverse. Et je me dis que ça doit être le reflet de leur recherche pour réaliser le travail de synthèse à la base de leur livre. Alors que j'avais l'impression ces derniers temps de voir beaucoup d'initiatives accessibles sans équipement et même pas forcément 3D, mais c'est peut-être mon prisme.
J'avoue que j'ai le même que toi. J'ai le même que toi parce que je me suis dit, non, mais le métavers, c'est pas que de la. Enfin, c'est de la 3D, mais c'est pas que de la 3D avec des casques. D'ailleurs, je suis revenu un petit peu là-dessus en disant, mais pourquoi tu nous parles de casque uniquement? C'est peut-être ça. Il y a peut-être eu ce travail qui a été fait. Non, parce que le métavers, bon, on peut y arriver aussi avec un PC, avec un smartphone.
On a eu des invités qui parlaient
de 2D. C'est ça, de 2D aussi. Il y en a qui nous disent, il y a du rétro gaming dans certains univers. Donc voilà, il y a peut-être ce prisme-là. Mais bon, je sais pas ce qu'on verra. Ah ouais, c'est peut-être ça, mais bon, le métaverse, on peut y aller déjà, il n'y a pas besoin de casque et ça fonctionne. Tu nous as dit qu'il y avait 2 points particulièrement. Quel est le second point?
C'était votre échange sur l'analyse de l'utilisation d'avatars pour les marques et leurs ambassadeurs. Ces avatars qui doivent être donc en cohérence avec l'image de la marque et représenter l'identité réelle des interlocuteurs. Au mieux être la meilleure version d'eux-mêmes, comme on dit, mais sans trop s'éloigner de la réalité. Et plus globalement, comment les marques sont un peu coincées entre une injonction à la créativité qui est permise par ces univers et de l'autre côté, une attente de vérité, de transparence des utilisateurs qui les empêche un peu, a priori, de partir trop loin dans cette créativité qui pourrait être taxée de trompeuse. Donc, bah, bon courage hein, aux stratèges de marque. Il y a encore du boulot devant eux avec ce Web3.
Ouais, il y a encore du boulot. Hubert nous le dit, oui, effectivement, la 3D n'est pas nécessaire hein, et pas du tout dans la définition d'ailleurs du métaverse. Ouais, c'est pas obligatoire. Métaverse, c'est un univers. Hein, je vous rappelle, Discord est un univers du métaverse. On pourrait dire ça comme ça. À moins que j'ai dit une grosse bêtise, ça, on verra bien. Non, le débat était intéressant sur ce point de l'avatar parce que moi, je me suis posé la question finalement, bon, est-ce que l'avatar d'une marque ne serait pas l'univers dans lequel elle nous amène ? C'est-à-dire qu'en fait, l'espace, et finalement, ça m'a ramené un petit peu sur une réflexion en me disant, bah tiens, est-ce que l'avatar d'une marque, c'est-à-dire la façon dont on veut qu'elle se représente, finalement, on ne le retrouve pas dans ses points de vente physiques, puisque incarner une marque à part son logo, bah, c'est plutôt incarner, c'est plutôt avec des personnes. Et là, je me suis dit, bah, comment la marque va se projeter dans ces univers ? L'espace, peut-être, est une façon pour elle de s'exprimer, de montrer qui elle est, de montrer ses avantages, ses attributs, ses valeurs aussi. Et puis, comment vont faire un logo ? Alors, peut-être que Michelin a trouvé la solution. Hein, peut-être que Michelin a trouvé la solution avec Bibendum, qui est peut-être l'avatar ultime. Je ne sais pas. Mais on verra. Donc, c'est intéressant, effectivement, ce débat. Et tu, comme tu le disais, ça va demander aux communicants, finalement, de se creuser un peu le ciboulot, de se creuser un peu la tête, de trouver d'autres façons, peut-être, de s'exprimer. Et pas forcément, et je l'espère, de calquer ce qu'ils font aujourd'hui dans ces mondes-là. Au contraire, non, c'est peut-être une occasion de réinventer et d'aller travailler sur les fondamentaux de la marque pour dire, eh bien, grâce à ces nouveaux univers, en 2D, en 3D, ces nouveaux champs des possibles, il y a peut-être une façon de se réinventer aussi, de se réécrire, de redonner des clés de lisibilité pour la marque. Bref, je pense que c'est passionnant. Et puis, de mon point de vue, on ne peut pas décorréler le Web 3 et le monde réel, ouais, enfin le monde classique tel qu'on le connaît si facilement. Nathalie, d'ailleurs, nous a parlé aussi des procès qui se sont passés dans le métaverse, comme celui autour de l'utilisation illicite du sac Birkin d'Hermès en NFT. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça ?
Bah, il semblerait que ouais, ce fameux procès-là, c'est en train de devenir un cas d'école hein, côté Web 3. Alors malheureusement, il y a aussi eu des procès de côté particulier, hein, notamment pour agression sexuelle, et ça dès 2021. Donc, on n'est pas dans un nouveau monde avec de nouvelles règles, hein, mais c'est une reproduction en tout ou partie de la réalité avec les mêmes humains. Donc après, c'est potentiellement gamifié, mais les lois s'appliquent, quoi. C'est pas le Far West.
Ouais, et bon, pourtant, il y a quand même des bandits de grand chemin, au passage. Il y a des marchands de pelles et de pioches, hein, parce que ben, forcément, et on le voit, c'est peut-être ceux d'ailleurs qui seront les grands gagnants. Hein. C'est ceux qui deviendront riches, finalement. Ils ont toujours été beaucoup plus riches que les chercheurs d'or, finalement, ces gens-là. Est-ce que tu as retenu d'autres choses dans cet épisode, Alice ?
Ouais, j'ai trouvé très intéressante la partie sur les cas pratiques. D'abord, les cas d'usage pour les particuliers et tout ce qui sera possible de faire bah, grâce à l'intermédiaire de son digital twin, comme l'achat vestimentaire qui a été cité, par exemple, même si de fait, hein, ça implique que notre double, là aussi, nous ressemble parfaitement, mensuration et tout. Mais surtout, côté marque, de voir que c'est les marques de luxe qui font partie de celles qui se distinguent particulièrement et investissent massivement le Web 3. Donc, on peut se dire que leurs revenus leur permettent ces investissements un peu héroïstes pour l'instant, parce que le secteur du luxe, il se porte quand même très, très bien. Et aussi que ce Web 3 offre des expériences, ce qui est la première promesse des marques de luxe, donc c'est cohérent. Mais pour ceux qui ont vécu les premiers temps du Web, comme nous, c'est amusant de se rappeler que lors de l'arrivée d'Internet, beaucoup de marques de luxe ont boudé, voire même dédaigné le Web, et que c'est dans la décennie 2000-2010 qu'elles ont pour beaucoup fait des gros investissements pour rattraper mais l'énorme retard qui avait été accumulé quand elles ont compris que toutes luxueuses qu'elles étaient, elles pouvaient plus passer du potentiel d'affaires que le Web apportait. Donc visiblement, la leçon a été bien retenue.
Oui, ils l'ont bien retenu. Et puis, c'est probablement aussi lié au fait qu'il y a quand même un énorme encombrement publicitaire. Hein. Enfin, on prend n'importe quel magazine où il y a des marques de luxe. Bah, c'est quand même, on se demande si on n'achète pas finalement des pages de pub avec à l'intérieur quelques articles. C'est très encombré, donc probablement que ça leur permet de trouver aussi un nouveau territoire d'expression. Et puis ces marques de luxe, pour se différencier, font appel aussi à des grands talents créatifs et qui peut-être dans ces nouveaux univers, avec ces nouveaux possibles du Web 3, testent des choses, vont un peu plus loin, stretchent un peu la marque, se disent tiens, on va essayer de créer une nouvelle valeur. Donc c'est bien, ça tire vers le haut, je pense. Ça ne veut pas dire que ça ferme la porte aux marques qui ne sont pas des marques de luxe, mais bon, ça ouvre plein de possibles et ça, c'est merveilleux. Ce qui me permet de faire une transition presque toute trouvée pour l'épisode de jeudi. L'épisode de jeudi qui est plutôt plébiscité, hein. C'est Hubert qui dit « Ouais, moi, c'est vraiment l'ID décentralisé qui m'a vraiment le plus intéressé cette semaine comme épisode. » On a Charles aussi qui nous dit que c'est l'identité décentralisée. Il le voit comme peut-être une double rupture. On reprend le contrôle de nos données, le modèle économique des GAFA qui va basculer dans le Web 3. On en parle avec Alice. Voilà. Donc l'invité, c'était Jacques-André Finch-Lomberger. Ça fait deux fois qu'il vient. Il est directeur des opérations de Blockchain for Good. Ça fait deux fois qu'il vient et on enregistre un épisode pour le Web 3 Café. Ce thème, l'identité décentralisée, nouvelle donne grâce à la blockchain. Rien que ça. Alice, qu'est-ce que tu en as pensé?
Comme Hubert, comme Charles, je l'ai trouvé passionnant. Déjà, la première fois que Jacques-André était venu pour parler blockchain et développement durable, vous aviez commencé à aborder l'identité décentralisée en donnant des exemples d'initiatives factuelles dans certains pays où, il faut quand même le rappeler, il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas prouver leur identité ou qui n'ont pas accès aux comptes bancaires, par exemple. Mais cette fois-ci, vous avez continué à donner des cas d'usage, mais beaucoup plus proche de nous, applicable à nos futurs quotidiens. Et je crois vraiment que c'est en montrant ce que l'on peut ou qu'on pourra faire avec les blockchains et les smart contracts qu'on rendra cette facette du Web3 très tangible.
Ouais, alors moi, j'ai vraiment aimé cet épisode parce que d'abord, ça veut dire qu'on a une sorte de service après-vente, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on avait commencé à aborder cette histoire d'identité décentralisée lors de la précédente venue de Jacques-André. Et puis là, on s'est dit, allez, on va un peu plus loin. Et il nous a donné vraiment un exemple très concret sur comment les blockchains nous permettraient de reprendre le contrôle sur nos données personnelles, sur notre idée en ligne et même plus globalement, peut-être sur notre vie privée.
Mais oui, à l'heure du RGPD ou même d'initiatives, je pense à ça, la qu'a lancé la semaine dernière UFC avec je ne suis pas une data.fr pour récupérer et analyser les infos que les GAFAM et consorts possèdent sur nous. C'est un sujet plus que d'actualité et hyper concret. Comme l'a dit Jacques-André en détournant la phrase d'Andy Warhol, désormais plus personne n'a le droit à 15 minutes de confidentialité.
C'est incroyable ça. Hein, ouais, vous vous rappelez les 15 minutes de célébrité? Ben non, plus personne n'a droit à 15 minutes de confidentialité. Et puis on passe notre temps à diffuser, à disséminer nos datas personnelles. On le fait presque en continu. On s'en rend même plus compte en fait. Et puis comme l'a commenté Hubert, et ça, c'était beau, c'était une jolie pépite, d'ailleurs, qui a été relevée. Hubert nous a dit, lui, parce que la question de l'invité était de se dire, parce que vous pensez de l'identité décentralisée, c'est la question qu'a posée Jacques-André. Et Hubert a tout simplement répondu en disant, il rêve que l'identité décentralisée puisse permettre de prouver mon identité sans la donner. Et c'est vraiment fabuleux ce que trouvait Hubert. Je trouve que c'est la punchline de la semaine. Prouver mon identité sans la donner. Quand on a fait ça, je pense qu'on a donné vraiment la meilleure définition de l'identité décentralisée.
Exactement. C'est la punchline, c'est la promesse, quoi. On marche sur la tête avec le modèle actuel et on s'en rend même plus compte. Donc vraiment, j'invite les auditeurs à aller écouter cet épisode pour comprendre en 5 minutes à travers un exemple très concret. Là, il est parti de la certification d'un diplôme et on comprend simplement tout le potentiel de la techno et comment ça peut s'appliquer à plein de domaines et tout ce que ça pourrait permettre comme un monde digital avec un seul mot de passe unique nativement. Quand on prend pleinement conscience du potentiel, déjà, c'est vertigineux. Et on comprend mieux que les géants du web ne soient pas super chauds à voir ces innovations arriver. Hein, parce que ce serait gratuit, on ne serait même pas le produit. Donc, zéro bénéfice pour eux.
Zéro bénéf pour eux. Bref, une belle semaine. Moi, j'ai vraiment pris un pied terrible pendant cette semaine parce que les épisodes entre l'expérience collaborateur, les innovations de la Silicon Valley, les enjeux pour le métaverse, l'identité décentralisée, je sais pas vous, mais moi, j'ai appris plein de trucs cette semaine. Il y a plein de sujets nouveaux. J'avoue que l'identité décentralisée m'a ouvert pas mal de chakras. Voilà, bon, on a vu, hein, 4 épisodes, comme chaque semaine, un challenge pour nous tous, c'est de trouver un fil rouge, ouais, entre ces 4 épisodes. Je ne sais pas si toi qui nous écoutes dans tes podcasts, là, en train de courir en ce moment peut-être, ou de marcher, je ne sais pas, dans la rue, en forêt, ou, bref, ou dans le métro, si tu as trouvé un fil rouge à ces 4 épisodes, si tu n'as pas trouvé, tu peux encore le chercher. Et on va demander à Alice de te donner son fil rouge et je vais essayer d'en trouver un, hein, d'ici là. C'est parti. Alice, à toi.
Alors, le premier fil rouge que j'avais cru voir se dessiner, mais avant d'avoir fini la semaine, c'était synthèse. Car chaque invité venait, au-delà de parler d'un thème, faire une synthèse des pratiques du domaine concerné. Donc, il y avait les synthèses côté design lundi, synthèse des innovations US mardi, un livre sur les synthèses des pratiques Web 3, et je dis synthèse de tous les avantages à l'identité décentralisée. Mais j'ai changé d'angle et finalement, je vais choisir un acronyme que nous a donné Guillaume Dumortier et qui a résonné en moi et qui colle bien avec cette semaine très Web 3 et tournée autour de la prise en compte de l'individu, l'utilisateur final de toutes ces techs, et même avec le podcast Le Digital pour tous, et c'était IUWT, In Us We Trust.
On croit en nous, c'est ça? Waouh, c'est très très fort, c'est très très fort. In us we trust, c'est pas mal ça, ça marche. Ouais, donc ça donne un peu de confiance aussi. Bon, quant à moi, alors sur ces 4 épisodes, expérience collaborateur et design, équation gagnante, quelles nouvelles innovations attendent de la Silicon Valley, métaverse, quels enjeux pour les marques et les communicants, identité décentralisée et blockchain, ça change quoi dans le modèle? Mon fil rouge, j'ai eu du mal à le trouver. C'est tout simplement de se dire, allez, prenons juste un peu de recul. J'ai envie de dire, prenons un peu de recul. Pourquoi ça me fait penser à ça? Et ce step en arrière. Parce qu'expérience collaborateur design, un truc qui m'a interpellé dans cet épisode, c'est le fait qu'aujourd'hui, on travaille bien entendu l'expérience du collaborateur, mais son terrain de jeu a changé. Et le fil rouge aurait pu être terrain de jeu. Ou changement de terrain de jeu. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi en télétravail. Et là, l'expérience collaborateur, il faut le faire avec son environnement de travail. Pareil aussi, les nouvelles innovations attendues de la Silicon Valley, il y a une logique d'environnement. Donc, il faut prendre un peu un pas de recul et regarder un peu plus qu'est-ce qu'il y a autour. Et on le voit avec ce qui s'est passé cette semaine sur l'intelligence artificielle. On pourra aussi se poser la question, est-ce qu'on ne va pas perdre aussi un peu notre identité dans ce sujet-là ? Parce qu'il y a aussi un sujet d'identité. Ça aurait pu être mon deuxième fil rouge, le terme identité, parce qu'identité, ça fonctionne aussi pour l'expérience collaborateur. C'est l'identité de l'entreprise. Comment l'entreprise s'identifie dans l'environnement de travail du collaborateur, l'identité, parce qu'avec cette intelligence artificielle, est-ce qu'on va perdre aussi ce qui fait notre identité d'humain? Ou peut-être pas, mais on verra bien. Métaverse, c'est l'équation d'identité aussi pour les marques et les communicants. Et puis l'identité décentralisée, la blockchain, alors là, ça ouvre un peu un champ. Et on voit bien, c'est finalement ce côté, avec tout cet environnement, c'est peut-être l'environnement qui permet de changer les choses. Et l'identité décentralisée, le fait que ça soit finalement une certification par des machines, par des ordinateurs connectés entre eux, qui permet de donner le fameux flag, green flag, en fait, le feu vert pour dire oui, cette personne-là est bien la propriétaire ou bien c'est bien elle qui fait ce sujet. Voilà, donc l'environnement, ça, c'est mon fil rouge. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y en avait plein, hein. Finalement, il y en avait plein de possibles.
Oui, c'est l'humain, l'individu, c'est le us, c'est vraiment, c'est nous, on va reprendre. Enfin, c'est le pas de côté aussi, franchement, tout ce que tu as dit, mais je valide.
Merci, ouf, soi. check, et le plus soit, génial, merci beaucoup. Anne a trouvé aussi un fil rouge, l'apparence, elle nous dit, tiens, l'apparence, c'est pas mal ça, l'apparence. Et puis, on ne s'éprend que de l'apparence, mais on aime la vérité. Waouh, on ne s'éprend que de l'apparence, mais on aime la vérité, c'était... le beau fil rouge de notre amie Anne. Merci beaucoup, c'était cool. Alors, mes amis, merci d'avoir été présents, mais ne partez pas tout de suite, vous qui écoutez ce podcast, parce que je vais vous donner quand même le programme de la semaine à venir. Eh oui, ça tombe bien. On va démarrer lundi avec un invité, c'est le directeur de l'innovation du PMU. Il s'appelle Constantin Garraud. On va parler du Web3 et des grandes entreprises. Quel type d'approche, comment on s'y prend. Ça tombe bien, lui de son côté il vient de lancer Stables, c'est un tout nouveau jeu virtuel qui est fondé sur l'acquisition et l'échange de NFT à l'effigie de chevaux de course. Voilà, donc il s'est jeté dans la piscine, il voulait vous expliquer quelles sont les approches et les questions qu'on peut se poser quand on est dans une grande entreprise et qu'on veut passer au Web3. Bien évidemment, c'est un épisode qui sera disponible ensuite sur le podcast Le Web3 Café. Mardi matin, j'aurai le grand plaisir d'accueillir Gabrielle Hurtel. Ouais, c'est la fondatrice et la présidente d'une entreprise qui s'appelle Lily & Jude. C'est une marque qui distribue des vêtements de bébés éco-responsables en location et en e-commerce. Et le sujet, ça sera pour le podcast Le Digital pour tous, le sujet c'est louer des vêtements reconditionnés. Ça change quoi dans le modèle, hein? Est-ce que vous êtes prêts à louer des vêtements reconditionnés en plus pour des bébés? Waouh, on va parler du sujet, c'est un beau sujet. Mercredi, on cap sur le management nouvelle génération pour le podcast MGMT, management nouvelle génération. On va parler de l'innovation relationnelle côté DRH. L'invité, Céline Cussac, fondatrice et dirigeante de A Little Big Dream. C'est une agence qui est spécialisée en innovation relationnelle et qui accompagne les entreprises à réenchanter la relation avec leurs collaborateurs. Ça promet d'être passionnant. Et puis on aura jeudi, un épisode pour le Digital pour tous, pour le podcast, le Digital pour tous que tu écoutes toi en ce moment ici. On va parler des mécanismes de l'influence digitale. L'invité Aurélie Chou, directrice de l'influence et de la communication chez Cision France. Elle est aussi auteure du livre blanc qui s'appelle « L'influence digitale » par celles et ceux qui la font. Ça tombe bien. Et puis, bien évidemment, débrief de la rédac le vendredi. Ah oui, avec tous les participants en direct. Et à mes côtés, il y aura le fabuleux Christian Bellala. Il sera avec nous. C'est vendredi 17 février à 7h20 en direct sur twitch.tv/bonjourppc et aussi sur LinkedIn. Voilà, c'était le programme de la semaine. Alice, quand tu as tout eu là, est-ce qu'il y a un thème qui t'a le plus interpellé parmi toute cette richesse qui s'annonce pour cette semaine?
Hey, tu sais que j'aime pas choisir, mais bon, allez faire, un intérêt peut-être supplémentaire encore sur l'influence digitale sur l'épisode de jeudi.
D'accord. Ben écoute, voilà. Ben toi, tu as peut-être choisi, toi qui écoutes. Alors donc, il y a trois podcasts sur lesquels il faut que tu t'abonnes. Le Digital pour tous, voilà. Normalement, si tu écoutes, t'es abonné. J'espère, sinon tu peux. Il y a un bouton pour ça. Sinon, autre podcast, le Web3 Café, Web3 Café, et puis le podcast pour le management, ça s'appelle MGMT, Management Nouvelle Génération. Voilà, donc c'est bien, c'est pas mal. J'espère que tout va bien, je te souhaite un super week-end. Voilà, profites-en bien, c'est comme ça si tu nous écoutes durant le week-end, et sinon, c'est rendez-vous pour un prochain épisode très vite. D'ici là, porte-toi bien, et surtout, fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.